就与父随的啊啊语。
18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U pour votre quotidienne, c'est vous qui le dites. On continue cette semaine, sous le soleil et en musique, avec en deuxième partie d'émission la comédie musicale improvisée de la Clique à Farce qui aura lieu ce samedi 29 mars et nous accueillerons pour cela Diane. Mais tout de suite, nous vous proposons une interview de Félicien Foury, sociologue et chercheur au CNRS, qui a mené une enquête de terrain auprès des électeurs du Rassemblement National, une interview réalisée par Anton.
Et vous êtes aujourd'hui ici pour présenter et discuter de votre livre « Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite ». Ce livre retrace une enquête de terrain auprès de l'électorat du Rassemblement National dans le sud-est de la France. C'est une enquête qualitative qui s'étend sur 6 ans. Bonjour Félicien Foury.
Bonjour.
Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que vous trouviez cela important en tant que chercheur de s'intéresser au vote du RN et même à l'électorat du Rassemblement National qui peut-être est moins connu que l'électorat des partis plus traditionnels ou même de l'électorat des partis plus à gauche?
En tout cas, j'avais l'impression quand j'ai commencé mon travail de thèse, car c'était un travail de thèse initialement, j'avais l'impression qu'on connaissait les électeurs et les électrices du RN soit par des chiffres, uniquement des sondages, des courbes, des fromages, voilà, et soit par des micro-trottoirs un peu rapides, journalistiques. Et au milieu de ça, il me semblait qu'il était nécessaire de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une enquête de terrain auprès de ces électeurs et électrices ordinaires, donc non militants, mais qui se mettent à voter pour le Rassemblement National. Et voilà, faire des entretiens approfondis à travers l'enquête de terrain et des entretiens aussi répétés dans le temps. Et ça me paraissait en tout cas important.
Pendant longtemps, on a assimilé le vote avant le Front National à un vote dit de manière peut-être un peu simpliste et caricaturale à un vote de facho, un vote d'extrême droite. Aujourd'hui, le RN, son vote en tout cas augmente année en année jusqu'à atteindre 31% aux élections législatives en 2024. Est-ce que ce vote aujourd'hui reste un vote dit raciste, xénophobe?
La dimension raciste et xénophobe reste toujours présente dans le vote RN. C'est quelque chose qu'il faut regarder avec lucidité. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui votent pour ce parti que cette dimension raciste ou xénophobe s'efface, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est minoritaire dans la société, par exemple, française. Mais par contre, c'est vrai que ce sont des formes de racisme, par exemple, qui peuvent évoluer. Moi, ce que j'ai vu sur mon terrain, c'est qu'on n'est plus du tout dans un racisme à l'ancienne, j'allais dire, c'est-à-dire qui postule des races, une hiérarchie entre les races pseudo-biologiques, mais beaucoup plus ce que certains appellent un racisme culturel, c'est-à-dire des formes de rejet à l'égard des musulmans, par exemple, ou considérés comme tels, qui sont considérés comme moins légitimes à être en France que d'autres groupes sociaux. Donc il y a des permanences dans cet électorat, même s'il y a bien sûr des évolutions, il y a de plus en plus de couches sociales différentes qui votent pour ce parti, et notamment on constate une très grande féminisation de cet électorat, avec maintenant autant d'électrices que d'électeurs qui votent pour le Rassemblement National, ce qui n'était pas le cas du temps de Jean-Marie Le Pen.
Vous avez parlé de racisme culturel. Il me semble qu'aussi, ce que vous avez pu observer, c'est un racisme qui découle en fait d'enjeux sociaux, d'enjeux économiques, et donc plus tellement, peut-être encore aussi, lié à l'identité, au mépris de l'étranger. Mais je pense que la dimension économique et matérielle, elle prend une place très importante.
Absolument, c'est ce que j'appelle des concurrences sociales racialisées, c'est-à-dire que pour avoir accès à ce qui est considéré maintenant comme des ressources rares, c'est-à-dire un emploi stable, mais aussi une bonne école pour ses enfants, des services publics de qualité, même un environnement résidentiel qui est apprécié, eh bien, l'accès à ces ressources rares, ben, les électeurs que j'ai rencontrés ont l'impression qu'il y a une concurrence qui est exacerbée pour l'accès à ces ressources-là. Et donc, il faut bien trier. Et là, c'est là que le racisme peut jouer à plein, effectivement, avec des motivations économiques, matérielles, où il s'agit de moins donner à certains groupes pour pouvoir soi-même continuer à préserver sa position sociale. L'électorat RN, c'est pas les plus pauvres qui votent RN, c'est souvent des personnes qui ont acquis un petit quelque chose, un petit diplôme, un statut social relativement stable, être propriétaire de son logement, mais qui ont peur de le perdre. Donc c'est vraiment cette volonté de préserver ce petit statut que là, les concurrences raciales, sociales racialisées peuvent jouer à plein.
Justement, c'était une des questions, c'était en fait, quel était le milieu auquel vous avez été confronté, milieu social, mais aussi peut-être géographique, peut-être que ça a aussi une influence.
Absolument, dans le sud-est de la France, tendanciellement, on a davantage un électorat qu'on pourrait dire médian socialement, c'est-à-dire des classes populaires relativement stables et des petites classes moyennes, mais qui sont, se sentent en fragilité. Il y a une électrice avec qui je discutais, elle me dit « nous on est au milieu, mais c'est le mauvais milieu ». C'est-à-dire on a vraiment le sentiment d'être dans un entre-deux social, territorial, économique, mais d'être fragile avec une pression qui vient d'en haut, mais aussi une pression qui vient d'en bas, et l'impression qu'on a mérité sa place, mais que cette place est menacée.
Vous parlez justement de ce milieu. Est-ce que c'est peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre en fait d'une pression, la peur que justement les classes peut-être plus populaires rattrapent, et enfin cette inquiétude. La question que je me pose aussi, c'est pourquoi en vouloir à cette classe populaire et pas tellement à la classe peut-être plus supérieure, qui d'une certaine manière s'accapare aussi des richesses et peut-être serait peut-être plus, du moins justifié, c'est peut-être pas votre rôle en tant que chercheur, mais justifié à en vouloir à la classe supérieure.
C'est une des énigmes effectivement de ce livre et à la fin de mon enquête, parfois je continue à me poser cette question, c'est que évidemment, effectivement, l'hostilité vis-à-vis des classes dominantes, ça suscite de la colère, ça suscite de l'amertume, ça suscite de l'envie aussi parfois, mais ça suscite surtout beaucoup de fatalisme. Alors que vis-à-vis de la pression par en bas, vis-à-vis des personnes considérées comme immigrées, notamment de classe populaire, là on a l'impression que c'est une situation qui est scandaleuse et qui est évitable et qu'on pourrait, qu'on devrait éviter. Et le vote RN, il s'inscrit dans cette question. Alors pourquoi autant de fatalisme ? Je pense que il n'y a pas eu assez de victoires, c'est-à-dire qu'en fait les personnes ne pensent pas crédibles actuellement de pouvoir réellement redistribuer les richesses de manière conséquente et de redistribuer davantage et d'avoir des victoires politiques sur ce versant-là, sur ces inégalités du haut en quelque sorte. Et donc on se dit c'est plus possible. Il y a une personne qui me dit à propos des personnes très riches qui s'installent dans le sud-est de la France et qui font monter les prix, ce qui fait qu'il y a tout un ensemble d'endroits qui deviennent inabordables. Il me dit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? Et ce truc de qu'est-ce que tu veux y faire, c'est-à-dire, ça devient impossible, c'est considéré comme non crédible, ça me paraît particulièrement important.
Est-ce que le vote RN, c'est un vote réformiste, un vote populiste, comme on aurait peut-être tendance à le croire, ou en tout cas vouloir tendance à nous faire croire, ou plutôt ça reste un vote qui est plus conservateur, parce qu'il me semble qu'il y a des phrases que vous relevez et qui reviennent souvent, sont des phrases « c'est pas normal »,« comment c'est possible ?» Voilà, quelle est la nature de ce vote ?
Oui, c'est un peu la spécificité du vote RN, c'est à la fois un vote protestataire et conservateur. Comme vous venez de le dire, la phrase que je crois j'ai le plus entendue sur mon terrain, c'est celle-ci, c'est cette formule « c'est pas normal ». Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, je trouve pas ça normal. Donc on voit à quel point le vote RN, c'est un vote qui est émis depuis la norme, depuis un certain sens de la normalité, de ce qui devrait être, mais c'est une norme qui est perçue comme menacée. Et donc il s'agit de préserver, et le vote RN s'inscrit là-dedans pour préserver encore une fois ce petit statut, ce sens de la normalité qu'on a. Donc à la fois un vote conservateur, mais aussi un vote protestataire, parce qu'il faut protester pour conserver, justement.
Si je ne me trompe pas, je vous ai entendu dire que le racisme était un fait social qui n'était pas propre uniquement aux électeurs du Rassemblement National et probablement aux électeurs de d'autres partis d'extrême droite. J'aimerais bien vous entendre réagir.
Absolument, c'est un point absolument crucial pour moi, c'est qu'il faut à la fois, comme je l'ai dit au début, reconnaître que oui, il y a une dimension raciste au vote RN, mais en même temps pas penser que l'extrême droite en a le monopole de ce racisme. Et c'est quelque chose qu'on sait assez bien en sciences sociales maintenant, que de la même façon qu'il y a du sexisme dans les classes populaires, dans les classes moyennes, chez les classes supérieures, dans la bourgeoisie culturelle, etc., il y a aussi du racisme dans tous les milieux sociaux, et à chaque fois il va s'exprimer de manière différente. Donc il ne faut pas que l'extrême droite innocente en quelque sorte le reste de la société de sa participation aux inégalités ethno-raciales et au processus de racialisation. Ce qui fait que le vote RN, c'est une modalité parmi d'autres, mais non la seule, d'expression du racisme. Mais de loin, non la seule.
Pour mener votre enquête, je l'ai dit au début, vous avez opté pour la méthode qualitative, la méthode de terrain. Comment est-ce qu'elle s'est traduite, cette enquête ? Comment est-ce que le contact avec vos enquêtés s'est-il fait ? Et peut-être aussi revenir sur la relation avec vos enquêtés, puisque vous avez fait une enquête sur 6 ans et vous avez pu enquêter plusieurs fois les mêmes personnes. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Oui, on a une méthode souvent en sociologie, lorsqu'on fait une enquête de terrain, c'est ce qu'on appelle la méthode boule de neige. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait un entretien, on demande à la personne, est-ce que vous pouvez me recommander à d'autres personnes que vous connaissez, un ami, une personne de votre association, un collègue professionnel, une personne de votre famille, etc. Et donc vous procédez comme ça par boule de neige, avec la boule qui s'agrandit de plus en plus. L'avantage de ça, c'est que vous parvenez à reconstituer les groupes sociaux concrets dans lesquels les individus sont insérés. Et ça, c'est quelque chose d'assez connu en sciences politiques, qui est que les gens, même si on vote dans l'isoloir et à bulletin secret, en réalité, on vote toujours en groupe. On vote comme son entourage, et notamment comme son entourage proche. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est reconstituer l'entourage proche pour voir quel était le sens commun partagé et comment ça pouvait faire basculer certaines personnes vers l'extrême droite. C'est la dernière phrase de mon livre, je crois, où je dis... Les électeurs penchent vers l'extrême droite parce que le monde qui les entoure penche avec eux. Et c'est vraiment ça que je cherchais à identifier.
Vous parlez beaucoup de la normalisation du Rassemblement national, un vote qui est perçu comme normal, un vote parmi un autre en fin de compte. Ça n'a pas toujours été le cas. Le vote du FN, le vote de Jean-Marie Le Pen, était un vote qui était moyennement assumé, voire pas du tout. Comment est-ce qu'aujourd'hui ce vote il a évolué ?
Oui, pendant très longtemps, on a qualifié le vote RN ou FN à l'époque d'un vote honteux, c'est-à-dire qui était sous-déclaré dans les enquêtes statistiques, mais aussi dans les enquêtes de terrain. C'est quelque chose qui est en train de se modifier dans le temps, c'est-à-dire de plus en plus, il y a des personnes qui osent sans problème déclarer ce vote, et notamment dans certains milieux sociaux et dans certains territoires. C'est un vote, effectivement, qui est complètement normalisé, légitimé, comme les endroits où moi j'ai travaillé, voire c'est un vote qui peut être un motif de fierté. Ce qui ne veut pas dire... On l'a vu aux dernières législatives, c'était que pour tout un autre ensemble de la population, l'autre moitié en quelque sorte du corps électoral, le vote RN continue d'être une option politique illégitime, détestable, et dans d'autres territoires, comme par exemple le Nord-Ouest, le vote RN est beaucoup moins, le RN est beaucoup moins implanté, y compris électoralement, même si c'est en train de se développer, et donc il y a tout un ensemble de territoires et de milieux sociaux où ça reste un vote honteux. Donc il faut... faire varier de ce point de vue-là les focales.
Petite dernière question, est-ce que vous savez si vos enquêtés ont lu le bouquin ? Est-ce que vous avez eu de retour ?
Ça, c'est personnel. C'est-à-dire, j'ai autant de relations d'enquête, comme on dit, que j'ai d'enquêté. Et donc, les rapports que j'entretiens post-enquête avec ces personnes-là ne regardent que moi et eux et elles.
Merci beaucoup, Félicien Favry.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
On reprend notre émission, notre quotidienne, c'est vous qui le dites, sur Radio U, en musique, avec la comédie musicale improvisée de la Clique à Farce qui aura lieu ce samedi 29 mars. Et pour nous en parler, nous accueillons Diane. Bonsoir Diane.
Bonsoir.
Et Juliette. Salut Juliette.
Salut, salut. Donc, bonsoir Diane. Vous faites partie de l'association brestoise de théâtre d'improvisation, la Clique à Farce. Et vous passez samedi soir au Macorlan, comme l'a dit Zoé. Comment est-ce que vous vous sentez pour samedi soir ?
Enjouée et enthousiaste. Mmh. C'est tous les deux ans qu'on se produit au Macorlan pour notre comédie musicale improvisée. Donc ça fait deux ans qu'on attend ça. Donc on est ravis de monter sur les planches du Macorlan. On se prépare un dimanche par mois. On s'entraîne fort avec les musiciens qui nous accompagnent. Donc on est prêt, on est au taquet quoi.
Ok, et est-ce que, du coup, ça fait tous les deux ans que vous faites cette comédie, mais quand est-ce que ça a commencé ?
Ça a commencé, alors j'étais pas dans le projet d'origine, donc dire la date exacte, je pourrais pas, mais ça a commencé petit à petit il y a 6-7 ans, avec plusieurs présentations au Macorlan, à Guilherme, on s'est aussi produit à Léo Ferré, à la MPT du Guelmer aussi, qui nous propose ces salles.
Et est-ce que vous savez pourquoi la comédie musicale, enfin pourquoi est-ce que ça a commencé ce projet ?
Ah bah c'est une folle envie, un fou désir d'un des membres de la Clique à Farce, l'ancien président Martin Pansard, qui s'est dit bah allez, on n'a pas peur, vas-y, on fait une comédie musicale improvisée.
Let's go.
Enfin, c'est ça.
Et comment vous vous préparez à une comédie musicale ? Enfin, est-ce que, surtout pour les nouveaux arrivants qui n'étaient pas dans le projet d'origine, est-ce qu'il y a des cours de danse, de chant ? Enfin, comment la préparation, elle se passe ?
En fait, il y a les éléments de la comédie musicale tout court, en effet. On a pu avoir des stages de chant il y a quelques temps. Cours de danse, ça, on n'a jamais vraiment fait. On a fait des cours de percussion corporelle. Mais dans la mesure où c'est improvisé, en fait, on n'apprend rien par cœur. Donc, là où on va s'entraîner, c'est vraiment à être en connexion les uns avec les autres. On est sept à jouer. Être en connexion avec les musiciens qui, eux aussi, improvisent tout du long. Il n'y a rien d'écrit pour eux. Ils improvisent tout.
Okay. Et les musiciens, c'est des musiciens qui ont l'habitude d'improviser ou là, pour le spectacle, ils ont une sorte de formation
Non, ils ont l'habitude d'improviser. Je les salue d'ailleurs. C'est Jean-Loup Le Saout et Sébastien Rodalec qui sont deux musiciens. Ils sont professionnels. Mais c'est, voilà, ça a été vraiment tout un travail avec eux que de réussir à se comprendre en fait, dans ce que eux, là où ils veulent nous emmener, sur quel type de chanson, quel type musical. Nous, à l'inverse, leur montrer « Non, en fait, là, j'avais pas envie de faire une chanson, c'est pas maintenant, là !»
Ah oui, parce que même les moments dans la comédie où vous chantez, c'est pas préparé, quoi.
Non, c'est ça. oui, c'est pour ça que je disais que c'est un projet fou.
Ah ouais.
C'est que tout est improvisé du début à la fin. L'histoire est improvisée.
C'est un véritable... Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe à part entière, quoi. Faut avoir une sorte de connexion les uns avec les autres pour savoir qui va commencer à chanter à tel moment, qui va danser.
Oui, c'est ça. Okay. C'est exactement ça. Et c'est aussi ça qui fait que c'est jubilatoire. C'est parce qu'on est en connexion sans arrêt les uns avec les autres. On se regarde sans cesse. On est à l'affût, en fait, du moindre signe. Ah tiens, il est en train de lancer une chorégraphie. Bah vas-y, je le suis. Je sais pas ce qu'il va faire, mais c'est pas grave. Je le suis, je lui fais confiance et... Confiance, c'est vraiment le maître mot en fait qui règne entre nous.
Ça arrive d'avoir des ratés.
Ah bah oui, évidemment. Mais on a aussi appris à utiliser ces ratés, en fait, à se dire ah tiens, je suis pas du tout dans le bon tempo, par exemple. Bah c'est pas grave, je vais en faire une force de mon personnage et mon personnage il sera jamais dans le bon tempo. Ou alors une chorégraphie où on a toujours un temps de retard, par exemple, où on se rend compte qu'en fait, les autres, ils faisaient de la main gauche et nous, on fait de la main droite. Bon, du coup, on va utiliser ça, en fait, pour nourrir nos personnages.
Oui, c'est ça, puisque de toute façon, le public, il ne saura jamais si c'était de l'impro ou pas. Enfin,
c'est ça.
Il ne saura jamais si c'était censé être comme ça.
Oui, c'est ça. Et ça fait partie des choses avec lesquelles on s'est entraîné, c'est de dompter le foirage, j'ai envie de dire, que quand on se gourre, bah, de ne pas le montrer, en fait, et de rester en mode... pétillant et c'est cool et de jouer avec ça quoi.
Et est-ce qu'il y a des thèmes, même si c'est de l'improvisation, est-ce qu'il y a un thème dans l'improvisation ?
Oui, en fait ce qui sera demandé au public au début du spectacle samedi, c'est un lieu, Donc voilà, c'est le public qui donnera le lieu et un titre, le titre de la comédie musicale. Et à partir de ça, bah, on va se lancer. J'ai omis de préciser aussi qu'on sera accompagné d'une dessinatrice, Violette Cosmala, qui dessinera en impro également les lieux, les décors, certains éléments de l'histoire, et ce sera retransmis en fait en projection en fond de scène.
Ok, ça va faire partie de la scène. Enfin, ça va être comme un fond vert sur la scène, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'agrémenter par des décors, par des représentations, ce qui se joue, ce qui se chante, ce qui se danse.
C'est la première année que vous faites ça?
Non. Moi, j'ai participé à la représentation d'il y a 2 ans. Sinon, les autres, ils sont là depuis un peu plus longtemps. Ouais.
Et j'ai remarqué sur le site de votre asso que vous avez vraiment plein de types de spectacles différents. Donc là, vous faites une comédie musicale, mais vous faites aussi des catchs improvisés. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Et est-ce que c'est une façon pour l'asso d'attirer l'œil en quelque sorte sur le monde de l'improvisation, une façon peut-être d'attirer les gens dans ce milieu-là?
En fait, c'est vrai qu'on a plein de formats différents à la Clique à Farce, donc tout est improvisé à chaque fois. Pour faire un petit récap, par exemple, on a une pièce, un polar improvisé, on a un Provinzon qui sera joué en mai d'ailleurs bientôt au Vauban, qui est un spectacle à partir du vin. Le public et les comédiens boivent du vin et c'est vraiment le sensoriel du vin qui va nourrir l'improvisation, des catchs d'impro, en effet, des cabarets. Voilà, il y a vraiment plein de formats différents. Et en fait, c'est à chaque fois, c'est quelqu'un qui est à l'origine du projet, qui se dit « Oh bah tiens, ce serait cool qu'on fasse un Tim Burton improvisé. » Bon bah voilà, c'est parti pour s'entraîner autour des codes du Tim Burton. Et voilà, donc la comédie musicale improvisée, c'était donc Martin qui était à l'origine de ce projet.
Et à chaque fois, dans l'improvisation, c'est le public qui choisit le thème, c'est ça?
Pas toujours. En fait, ça va dépendre des formats. Il y a certains formats où on va être beaucoup plus en contact avec le public. Par exemple, les cabarets d'improvisation qui se jouent dans des bars, où en effet, le public va à chaque fois donner des mots ou des contraintes. Et la personne qui drive, on va dire, le spectacle va choisir parmi ces thèmes. C'est aussi ça qu'on retrouve dans le catch d'improvisation ou dans le match qui est joué par nos amis de La Libido, qui est aussi notre troupe d'impro brestoise. Donc, comme je disais, pour la comédie musicale improvisée, c'est un lieu qui sera donné ainsi qu'un titre. Pour un Provinzon, par exemple, c'est que le lieu qui est donné et les bouteilles de vin sont choisies par un caviste qui c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine de ce format-là, parce qu'il est aussi improvisateur. Et là, il n'y a pas besoin de demander de thème au public, du coup, parce que le thème, c'est le vin, quoi.
Ok, et donc c'est pour les cabarets, c'est ça? Il y a vraiment une véritable interaction avec le public. Mais est-ce que ça peut arriver dans d'autres formats d'improvisation, enfin d'autres formats de spectacle? Par exemple, en comédie musicale, est-ce que ça peut arriver que vous performez une chanson assez populaire et que vous demandez au public de chanter avec vous?
Il y aura moins d'aller-retour avec le public comme on le fait dans le cabaret où toutes les 4-5 minutes, le public va donner des idées. Par contre, c'est sûr que nos refrains, ils sont ultra simples, forcément, vu qu'on les improvise. C'est pas des grandes paroles hyper compliquées à reprendre. Et c'est vrai que sur les comédies musicales improvisées précédentes, le public chantait avec nous, en fait, du début à la fin, quoi.
Et j'ai vu aussi sur le site que vous organisez des ateliers d'improvisation pour adultes et ados. Donc, comment ça se passe, ces ateliers?
Donc, en fait, il y a 2 soirs, le lundi et le mardi, où il y a des ateliers adultes. Le mercredi, c'est les ateliers ados. Comment ça se passe, un atelier? En fait, on s'entraîne sur plein de choses différentes, parce que, comme je disais, c'est de l'impro, c'est pas du théâtre. Donc, on va pas du tout s'entraîner à performer un texte ou à réfléchir à des éléments de mise en scène, quoique on travaille quand même la mise en scène, mais sous d'autres aspects. On va vraiment travailler la connexion, en fait, entre nous, à sentir à quel moment est-ce qu'il faut y aller, à quel moment laisser la place, par exemple, à incarner des personnages. Là, on sort, pour vous donner un exemple, de 4 ateliers où on a travaillé sur le thème de l'animalité, donc d'incarner des personnages en étant une poule ou en étant une chèvre ou une vache, un cheval. Donc de prendre vraiment le corps de ces animaux pour illustrer nos personnages. On va s'entraîner à placer la voix, on va s'entraîner sur différents formats, par exemple en parlant plus ou moins, en chantant, comment poser un décor. On va s'entraîner sur du mime, par exemple, sur les émotions, évidemment. On va beaucoup nourrir nos impros avec nos émotions.
Ok, et ça vous arrive de les emmener dans tous les formats que vous faites donc, je sais pas, de les emmener dans un tournoi de catch, improviser de faire des choses comme ça.
T'emmener qui, pardon?
Les ateliers, enfin, les participants des ateliers, les élèves.
Oui, oui, bah, en fait, j'en fais partie. Hein. C'est créé par nous et pour nous.
Okay.
C'est des professionnels qui nous entraînent, mais on s'auto-entraîne également. Moi, par exemple, si je donne des ateliers. Voilà, du coup, on est un certain nombre de ces ateliers à faire partie de la comédie musicale improvisée.
Et les élèves qui participent à ces ateliers, après, ils ont pour vocation d'aller dans l'assaut, enfin, de vous suivre dans tous vos spectacles?
Ça dépend des envies de chacun, en fait. Il y a ceux qui ont envie de juste s'amuser, et c'est déjà beaucoup d'apprendre à lâcher prise, parce que le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'impro, s'autoriser à rater, parce que vu qu'il n'y a rien de prévu, bah oui, on va rater. S'autoriser à rater, avec le sourire. Et puis, de l'autre côté, bah, y a ceux qui ont envie de faire beaucoup de spectacles, de s'entraîner beaucoup pour développer de la technicité. Et bah, parmi toutes ces envies-là, on va s'inscrire dans différents spectacles, dans différents formats. C'est pour ça aussi qu'on a plein de formats différents. C'est pour que ça convienne à tous et chacun. Voilà.
Et du coup, vous allez aussi performer dans les mois qui suivent. Vous avez 2 dates en avril, une en mai, je crois, et aussi 2 en juin, il me semble, si je ne me trompe pas.
Alors, vous êtes certainement plus renseignée que moi. Okay. J'avoue, ma tête est surtout prise par la comédie musicale improvisée.
Pas de souci.
On a une date en mai pour un Provinzon. Alors, c'est mi-mai, quel jour, je ne sais plus. C'est au Cabaret Vauban. Certainement que c'est déjà plein, vu que ça joue à guichet fermé, il n'y a pas beaucoup de place. On a une date au Dubliners, le lundi, le premier lundi des vacances.
Le 7.
Le 7, voilà. Merci.
Vous avez, pour info, vous avez une date le 4 et le 7 avril.
Ça va, je vous laisse la parole là-dessus.
Bah, du coup, je voulais savoir ce que vous allez faire.
Pour le 4, je crois que c'est un musical, un cabaret autour de la musique.
Ok, donc vous allez changer, vous allez chanter,
ouais,
aussi.
Oui, c'est okay. Ça. Ouais.
Et d'accord. Bah, du coup, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous voulez rappeler un peu quelques infos pour samedi?
Ouais, je vais juste rappeler du coup qu'on joue. Donc, je fais partie de l'association de théâtre d'improvisation brestoise La Clique à Farce. On joue samedi 29, au Macorlan, à 20h. C'est 8 euros la place tarif adulte et 5 euros tarif réduit pour les enfants. Il y aura buvette et puis petite restauration sur place. La comédie musicale improvisée, c'est dur de donner une durée précise vu que c'est improvisé, mais en gros, ça va durer entre 1h et 1h30. Donc, c'est 7 comédiens sur scène, 2 musiciens, une dessinatrice et tous ensemble en connexion avec le public autour d'une seule et même histoire dans laquelle il y aura des chansons, des chorégraphies et ce sera une aventure inédite, originale, unique qui ne se refera jamais vu que bah, c'est improvisé. Voilà.
Et bah, c'est super. Bah, merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Bonne soirée.
Merci beaucoup. Break the bottom out.
après cette longue pause sur Radio U pour continuer notre émission, c'est vous qui le dites. Et comme tous les mercredis, c'est l'heure de la chronique culturelle de Gwen. Bonsoir Gwen.
Bonsoir.
Donc 50 ans cette année depuis la mort de Pasolini, dans des circonstances assez troubles. Tu reviens sur ces poèmes écrits au tout début des années 70, publiés tardivement en France, déçonnés homérotique, pardon, dédié à son compagnon de toujours, le disgracieux Ninetto Davoli, atypique acteur.
On connaît de Pasolini avant tout sa mort dans des circonstances troubles qui ont fait de lui une figure mythique, son œuvre littéraire souvent posthume est hantée par cette mort foudroyante. Pasolini s'empare ici de la forme figée du sonnet qu'il débride. Il laisse le vers en suspens comme une hésitation, un halètement, de même que les points de suspension qui disent le trouble de l'âme. La question du sexe le préoccupe particulièrement. Souvent sous l'angle de la provocation, il nous présente une sexualité prétendument débridée à l'encontre de l'Église qui cadenasse les rapports sociaux. Pour autant, c'est une poésie de la vitalité, de l'intimité qui s'exalte, une poésie du je et du moi en attente de l'altérité. Il nous dit cette incongruité face au monde tel qu'il se présente à nous, inerte et infâme, le rire étant la seule réaction qui vaille. Dans cette suite du temps, la fin de l'innocence enfantine veut dire l'enlaidissement progressif, la décrépitude des chairs qui se rident. À la fois doucereux et flamboyant, une œuvre donc testamentaire qui envisage la vie comme une maladie elle-même, une anomalie avant la mort foudroyante.
Tu voulais aussi nous parler d'une œuvre atypique commandée par François Pinault à Christine Angot.
C'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à un mécénat de la part des empires du luxe qui investissent massivement dans l'art sous toutes ses formes. On a vu Saint-Laurent financer des projets ciné. Voilà maintenant que François Pinault sollicite des écrivains. Il a invité Christine Angot à passer une nuit dans la Bourse de commerce, lieu plébiscité et mondain. Une commande qui s'inscrit dans une collection chez Stock, mais nuit au musée. C'est que le salon littéraire s'est vachement transformé depuis Madame de Sévigné. Aujourd'hui, les écrivains égocentriques se retrouvent seuls face à leur seul sujet, eux-mêmes. On peut y voir aussi une sorte de performance arty, post-moderne, un concept conçu comme ultra cool, qui veut à tout prix réinventer la figure de l'écrivain pour la rapprocher de celle de l'artiste, avec toute l'ambiguïté de ce terme galvaudé. Angot brasse tout un univers de références pour reconstituer sa trajectoire de vie dans un name-dropping assez ahurissant. Pour autant, le ton n'est pas celui du catalogue, mais bien celui de la confession, un rendez-vous intimiste auquel elle invite son lecteur potentiel. En se replongeant dans ses souvenirs, l'écrivain écrit une histoire où s'entremêlent pêle-mêle des noms d'écoles d'art, des villes. Elle partage ses goûts éclectiques de la tradition vénitienne la plus référencée, Léonard de Vinci, Piero della Francesca, à la hype la plus contemporaine, celle de Jeff Koons. Et quand se greffent les endroits dans lesquels elle a travaillé, se tissent des relations qui disent l'importance de se constituer un réseau pour espérer faire carrière. On y côtoie aussi bien Charles Consigny, Coqueluche télévisuelle, les noms d'auteurs contemporains, Camille Laurence, Mathieu Lindon, Emmanuel Carrère, que le nom d'Isabelle Huppert et des titres de presse tels que Têtu ou Elle. Parce que toutes ces sphères, celles des médias, du journalisme, du cinéma, sont corrélées, s'interpénètrent, communiquent. Angot décrit en fait un écosystème parisien, celui de la réussite sociale, qu'elle décompose en strates, qu'il s'agirait de percer, d'y entrer, quitte à forcer le destin et contredire les déterminismes. Et pour ce faire, elle emploie, comme à son habitude, ce ton lascif, cette écriture blanche, fade, sans vie, pessimiste, si contemporaine.
Merci beaucoup, Gwen.
Je te remercie.
Donc, nous, on se retrouve demain, même heure, sur Radio U pour une nouvelle émission. Bonne soirée à toutes et à tous.